Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans un livre qui est probablement le plus petit de la Bible. Alors, vous posez peut-être la question. C'est un prophète. Ça fait partie des ce que l'on appelle des petits prophètes qui finalement étaient petits mais très grands aussi. Hein. Et celui-ci, il s'appelle Agée. Voilà, je ne sais pas quel âge il avait, mais en tous les cas, il s'appelle Agée. C'est son nom, hein. Rien à voir avec les ans qui passent sur la vie des hommes. Voilà. Alors, Agée, alors pour vous aider, c'est avant Sophonie, et c'est avant Zacharie, et c'est après Sophonie. Voilà. Hein, si vous le retrouvez dans votre Bible, je voudrais lire simplement un texte qui va introduire notre méditation et qui va aussi peut-être nous donner quelques perspectives dans notre assemblée générale ce matin. Parce que c'est un encouragement, c'est une exhortation à servir le Seigneur et à travailler pour lui, avec cette promesse qu'il nous laisse dans ce livre. Si vous me servez, je vous bénirai. Et comme tout le monde veut la bénédiction du Seigneur, alors on va écouter. Donc, le prophète Agée, chapitre 1er, 2 versets 12 et 14. Zorobabel, fils de Séalciel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Voilà, j'arrête là. Et nous avons à travers ce texte quelque chose de formidable, parce que je pense que ça nous intéresse en premier lieu dans l'appel, la vocation que Dieu nous a adressée. Si nous avions à intituler ce message ce matin, nous pourrions dire tout simplement « Retour à des jours nouveaux ». Vous savez que le peuple d'Israël a eu des hauts et des bas. Il a eu des périodes de gloire, des périodes fastes, des périodes de grande intensité spirituelle, mais il a connu des effondrements jusqu'aux abysses. Et nous voyons que là où nous lisons, nous prenons ce texte, nous nous apercevons que le peuple d'Israël, revient de la déportation. Il revient de l'exil de 70 ans en Mésopotamie. Et le peuple va retrouver le pays de Dieu, le pays d'Israël. Et ils sont complètement tout empreints de leur misère et de cette période d'exil épouvantable qu'ils ont subi. Alors, il faut que, quelque part, tout se remette en route, tout se remette en marche. Parce que ils sont profondément choqués, blessés. 70 ans, vous rendez compte, il ne reste plus que quelques vieillards qui ont connu la gloire de l'Israël avant, le temple de Jérusalem. Et pour tout le reste, ce sont des gens qui sont nés là-bas en déportation. Des fils, des filles, et ils n'ont pas connu. Alors, Dieu va faire accompagner finalement ce peuple qui revient par des hommes d'autorité, Zorobabel par exemple, qui est le gouverneur de Jérusalem, gouverneur de la Judée. Et puis, il va y avoir aussi un homme qui est un sacrificateur, il s'appelle Josué. Et puis, il va y avoir le prophète qui va stimuler le peuple en disant « Mais ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas à vos pieds, mais regardez devant vous parce que Dieu va vous bénir, il va vous guérir de vos blessures. » Il va vous faire du bien, il va vous redonner l'énergie, il va vous donner la force, finalement, eh bien, de faire de ce pays que vous avez connu, ou dont on vous a parlé, les anciens, les vieillards vous en parlaient, eh bien, vous allez le faire refleurir, ce pays. Et vous allez voir, il va être encore plus beau qu'avant. Et ça, c'est formidable. Alors, ça peut être nous concerner, parce que quelquefois, pour les plus anciens d'entre nous, nous avons connu un autre temps, dans l'Église. C'est vrai, dans le peuple de Dieu. Mais je pense que les temps d'avant, même avec tout ce qui peut se passer, l'usure de l'âge, l'usure de la vie, le monde, et puis tout ce qui peut être subi, tout ce qui peut être vécu, tout ce qui peut nous désespérer encore aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas regarder à ce qui nous désespère, il faut regarder à ce que nous espérons, finalement. Et le Seigneur nous parle. Alors, il y a d'abord une première prophétie qui est donnée au peuple rescapé, au peuple qui revient. Et c'est contre les murmures du peuple que Dieu va envoyer Agé pour leur dire tout simplement, eh bien, quelque chose qui n'est pas là pour les condamner, mais qui est là pour les stimuler, vous savez, les aiguillonner, pour leur donner de ne pas s'apesantir sur leur tristesse et leur misère, mais de dire, mais écoutez, vous êtes déjà sortis d'exil, c'est déjà quelque chose. Vous auriez pu y rester, finalement, eh bien, et jamais retourner dans votre pays. Alors, il va parler parce que le peuple murmure. Il murmure et il dit, le peuple dit, eh bien, le temps n'est pas venu de reconstruire le temple. Ils se disent, mais nous sommes sans force. Il faut reconstruire la ville. Il faut reconstruire le temple de l'Éternel. Mais on est sans capacité. On est complètement démunis. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi faire. Alors Dieu va leur répondre. Il va leur dire, écoutez, le problème, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais le problème, c'est que vous êtes complètement en train de regarder toujours derrière vous, et derrière vous, c'était pas quand même le meilleur, c'était l'exil, c'était la déportation, c'était la souffrance, c'était l'éloignement, finalement, de votre pays, de votre patrie, mais votre problème, c'est que j'ai vu chez le peuple, j'ai vu chez Israël, votre négligence, pour moi, votre Dieu, qui vous ait fait sortir, qui vous ait libéré, eh bien, j'ai vu votre négligence en ce qui me concerne et surtout votre empressement à votre confort personnel parce que votre priorité, ce n'est pas moi, mais c'est vous. Voilà. Le problème, c'est que vous êtes ramené toujours à vous-même et c'est vous-même. Alors, on a notre Bible ouverte, on va lire le verset 2 et 4. Et ainsi par l'Éternel, ce peuple dit, le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite? Quand le temple de Jérusalem est détruit? Votre préoccupation, eh bien, c'est de vous ramener tout simplement à vous-même, alors qu'il y aurait quelque chose d'autre à faire. Que vous reconstruisiez vos maisons. Que vous retrouviez, eh bien là, les conditions d'un confort. On est tout à fait d'accord. Je ne suis pas contre. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez complètement abandonné le reste. Et le reste, c'est le principal. Parce que si vous voulez avoir la bénédiction dans vos maisons, il faut commencer par Dieu. Et vous connaissez, hein, Jésus nous le dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il ne faut pas l'oublier dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il semblerait que tout ça, ça se gomme de plus en plus. Et peut-être particulièrement avec les nouvelles générations. Le monde nouveau, ceux qui normalement sont en passe de prendre la suite dans l'œuvre de Dieu dans les églises, y compris les pasteurs. Faut pas l'oublier. Alors, les conséquences, Dieu va leur dire, vous vous posez mille et une questions pourquoi ça ne marche pas. Vous vous dites, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? C'est pas que Dieu ne veut pas bénir, mais c'est que Dieu ne peut pas vous bénir. Parce que vous ne lui laissez pas l'occasion de vous bénir. Vous ne lui donnez pas l'opportunité de finalement, eh bien, de se réjouir en vous bénissant, d'une manière ou d'une autre. Et Dieu fera dire par le prophète Agé, vous tournez à vide. Ah oui, vous vivez, vous existez, mais vous tournez à vide, vous vivez à vide. Alors il parlera des récoltes, qui sont maigres. Il parlera de l'insatisfaction morale des Hébreux. Une insatisfaction existentielle. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de travail, à commencer par eux-mêmes, pour leur propre profit, beaucoup de travail, mais il y a peu de gains. C'est comme quelqu'un, et on va le lire dans un instant, c'est comme quelqu'un qui met la meilleure semence dans son champ, qui a tout préparé, engraissé son champ et tout ce qu'il faut, et que finalement, eh bien, il s'attend à une récolte abondante, et qui n'en est que tout simplement un quart. Alors il se dit, mais j'ai travaillé pourquoi ? Pourquoi j'ai travaillé ? On s'interroge, on se pose des questions naturellement. Alors, insatisfaction, naturellement. Et Dieu va dire, tout simplement, mais servez-moi. Servez-moi et je vous bénirai. Dieu n'attend qu'à bénir les hommes. Dieu est en attente, finalement, de donner sa bénédiction sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire sur l'Église, sur chacun d'entre nous. Mais il faut que nous le comprenions. Et la suite, eh bien, c'est si. Considérez attentivement vos voies, à partir de la fin du verset 5. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne et apportez-moi du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut produire, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Voilà la constatation qui est faite. Et on entend en écho dans ces paroles où Dieu est en train de diagnostiquer le mal, la maladie chez Israël. Il leur dit, mais servez-moi et je vous bénirai. Mobilisez-vous. Consacrez-moi du temps. Mettez-moi à la première place. Donnez-moi la primauté dans votre vie et je vous bénirai. On est convaincu que Dieu le fait. Peut-être les jeunes sont moins convaincus, mais vous avez besoin de faire des expériences avec le Seigneur pour fonder et marquer votre foi. Les débutants dans la vie spirituelle, vous commencez déjà à en faire des expériences. Nous qui sommes plus anciens, on a vu vraiment notre route et notre vie marquée par la grâce et la bénédiction de Dieu tous les jours. Moi, je voudrais vous le dire ce matin. Ouais, ouais. Vraiment, nous n'avons manqué jamais de rien. Et ça doit nous donner envie d'aller dans ce chemin-là. Je vous bénirai, dit Dieu. Et puis, à un moment donné, il va y avoir le réveil des chefs d'Israël et de tout le peuple qui va se réveiller. Ils vont avoir une conviction de péché. Ah, peut-être pas n'importe quel péché, mais le péché d'indolence, le péché de paresse pour Dieu, le péché d'insouciance, le péché de négligence, d'indifférence. Voilà, on pourra en ajouter d'autres. Mais ils vont être saisis, ils vont entendre la parole du prophète et ils vont se dire, on ne peut pas rester comme ça. Nous avons entendu de si belles histoires de nos anciens, de nos pères, qui nous disaient que, eh bien, Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu de surnaturel, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Alors, ils se disent, mais pour nous, qu'est-ce qu'il en est ? Dieu leur dit, mais je suis capable de faire avec vous ce que j'ai fait avec vos prédécesseurs. Il n'y a aucun problème. Et c'est une repentance, figurez-vous, qui n'est pas parce qu'un homme qui s'appelle âgé par le bien, mais parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. C'est une repentance par le Saint-Esprit en disant, on arrête cette vie qui nous mène à rien. Cette vie où nous perdons notre temps, où nous gaspillons notre énergie, et maintenant, vraiment, nous voulons, eh bien, mettre la priorité à Dieu. Ça ne veut pas dire que notre vie va s'arrêter dans notre vie humaine, C'est pas ça. Mais c'est la priorité, vous comprenez? La priorité à Dieu avant tout. Priorité pour se retrouver dans les cultes et prendre la Sainte Cène, parce que c'est là où ça se passe, je vous l'ai dit ce matin. Le renouvellement de la bénédiction de la délivrance. Et puis, dans l'engagement d'évangélisation, on a des réunions d'évangélisation. Encore heureux que nous ayons encore à Saint-Nazaire des réunions d'évangélisation. Ça se ferme un peu de tous les côtés. Puis des réunions de prière, c'est des réunions de combat, des réunions de combativité pour gagner finalement des victoires et prendre des victoires devant le Seigneur. Alors, on l'a lu, Zorobabel. Il est question de Josué, il est question du reste du peuple. Ils entendirent la voix de l'Éternel, et à ce moment-là, ils ont été saisis de crainte, et Agé leur a parlé, en disant ces mots, « Je suis avec vous, dit l'Éternel, je suis avec vous. » C'est à partir du moment où on prend la décision que Dieu va nous confirmer qu'il est avec nous. Il ne faut pas attendre que Dieu vous dise « Je suis avec toi » et maintenant c'est à nous de prendre l'initiative. Et après, Dieu va confirmer qu'il est avec nous. Écoutez bien cette phrase parce que c'est le cœur même de notre méditation. « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit de tout le reste du peuple. Alors ils se sont rassemblés, ils se sont mis tous ensemble et ils se sont mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. » Leur Dieu, voilà, ils se sont mis à travailler. Ils se sont dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Que nous ayons un lieu, un sanctuaire pour adorer notre Dieu, comme nos pères l'ont fait précédemment, eh bien, nous voulons qu'il en soit ainsi, tout simplement. Et puis, il y a le chapitre 2. Je vais parler un petit peu en diagonale ce matin. Le chapitre 2. 4 semaines après avoir repris le travail, parce que quand on regarde les chiffres, c'est ça ce que ça donne, 1 mois après avoir repris le travail avec ardeur en disant « on va mettre Dieu en premier », il se passe un phénomène. C'est que les anciens, les quelques anciens qui étaient revenus de la déportation vont se démoraliser. C'est pas les jeunes, c'est les anciens. Ils se démoralisent parce qu'ils sentent toute leur vieillesse. Quand ils sont partis en déportation, ils étaient tout jeunes. Quand ils reviennent, ce sont des vieillards. Ils se disent « mais la vie a passé ». Ils sentent leur indigence morale et spirituelle et leurs efforts que le peuple est en train de faire actuellement est si peu face à l'ouvrage considérable pour remettre le temple de l'Éternel debout. Ils se disent « mais qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Et vous savez, ce découragement, il vient par une chose. On va le découvrir. Il vient tout simplement par l'effet de la comparaison de ce que c'était avant et de ce que c'est maintenant, de ce que c'était hier et de ce que c'est aujourd'hui. Et là, frères et sœurs, écoutez bien ce que je veux dire. Faut jamais comparer les temps, parce que Dieu, pour Dieu, les temps sont toujours à se renouveler les uns et les autres. Ah oui, on vit plus du temps d'Abraham, on vit plus du temps de Moïse, on vit plus du temps de Jésus, on vit maintenant au 21e siècle. On ne vit plus dans les années 50 ou 60, en 1950 ou 60, où en France il y a eu un réveil spirituel, où il y a eu une effusion extraordinaire du Saint-Esprit, avec des miracles, les salles étaient pleines à craquer, et toutes sortes de choses. Ce que Dieu nous dit et ce que Dieu dit à ses serviteurs, en l'occurrence, vous et moi, mais ce temps il n'est pas fini si vous le voulez. Il est pour nous. Il n'y a pas de raison, il est toujours pour nous. Alors, c'est cette comparaison qui est soulignée au verset 3, chapitre 2, verset 3. Écoutez. « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire ?» La première question. Hein. « Et comment la voyez-vous maintenant ?» Quand ils sont partis 70 ans avant, en exil, la maison de Dieu était splendide, c'était le temple de Salomon. Quand ils reviennent, ce n'est plus que de la poussière et des ruines. Comment vous la voyez aujourd'hui ? Comment voyons-nous l'Église aujourd'hui? Oh, elle n'est pas en poussière et en ruine. Non, fort heureusement. L'état moral de l'Église, l'état spirituel de l'Église, comment le voyons-nous? Alors, on va voir ce qu'il est dit. Parce que c'est quand même assez intéressant à le considérer. Je voudrais dire quelque chose qui est important dans le raisonnement que nous pouvons avoir. C'est qu'après chaque réveil, ou chaque ressaisissement spirituel, après chaque souffle de l'esprit, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours à un moment ou à un autre, un moment d'abattement. Souvent les moments de réveil, c'est l'euphorie, c'est l'enthousiasme. Mais croyez bien qu'on peut pas vivre dans l'enthousiasme et l'euphorie tous les jours. Hein. Il faut vivre normalement la vie. Enfin, on est encore sur terre. Et nous ne sommes pas des éthérés. Alors il y a toujours un moment de fléchissement où on sent que ça perd de la vitesse. On sent que c'est plus tout à fait la même chose. Ouais, c'est comme sur l'océan, il y a des marées basses et des marées hausses. Comprenez? C'est un petit peu comme ça. Hein. Et il semble que les temps de la découverte ou de la redécouverte soient une émotion passagère, comme chez les Juifs. Ça durait 1 mois, 4 semaines. Ah, ils étaient tout feu, tout flamme, hein, les premiers 10 jours. Et puis après, au 20e jour, ils commençaient à dire « on est fatigué ». Et puis, à la fin du mois, ils se sont dit « mais qu'est-ce que l'on fait, là ? On s'est trompé, on est en train de faire quoi ? On ferait mieux d'habiter nos maisons et puis de travailler pour nous ?» Ils se disent « mais à quoi bon ?» Tout simplement. Et nous nous apercevons que c'est une émotion, parce que Dieu se sert authentiquement de nos émotions. Mais bien sûr qu'il se sert de nos émotions. Mais nos émotions, il veut les sanctifier. Il veut les purifier. Il ne veut pas que nous restions sur des émotions charnelles, mais il veut qu'elles prennent véritablement, eh bien, cette hauteur que donne le Saint-Esprit, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir persévérer et aller jusqu'au bout. Autrement, on ne va pas y arriver. On n'y arrivera pas. Mais devant l'ampleur du travail, les Juifs, ce qu'ils doivent accomplir, la lenteur où les choses commencent à se manifester, la lenteur pour concrétiser, et on s'aperçoit que en un mois, on n'a rien fait pratiquement. On n'a monté que des petits murs, et il reste des hauteurs considérables. Alors on se décourage, on se dit, mais devant une montagne, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Le temple dans toute sa beauté, sa splendeur, comme auparavant, mais comment on va pouvoir faire ? Alors, rien ne change beaucoup. C'est un petit peu le statu quo, c'est comme un voilier sur l'océan, quand il n'y a pas de vent, ça ne bouge pas. Et là, on est au milieu. On se fatigue vite quand on est découragé ou démoralisé, vous le savez ça. On se fatigue à reconstruire, et vous savez, il est plus facile de détruire que de construire. Ah oui, la déconstruction, ça va, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ça descend, c'est toujours en descendant. Hein. Mais quand ça doit monter, c'est pas tout à fait la même chose. Alors il faut avoir la force de regarder en avant, sans comparer, parce que ce que Dieu a fait dans nos milieux évangéliques, à travers tous les temps et dans les dernières décennies, mais le Seigneur va peut-être pas faire la même chose, mais il va le faire quand même. Et la vision de Dieu, faut que vous soyez tout à fait conscient. La vision de Dieu, c'est pas faire moins que ce qu'il a fait hier, c'est de faire plus. Mais nous, est-ce que nous voulons aller plus ? Toute la question, elle est là. Toute la question, elle est là. Vous avez remarqué, le peuple, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et s'il y a une prière que nous pouvons faire monter en église, le mercredi soir ou le mardi à Redon, en tous les cas, c'est de dire, Seigneur, saisis-nous par ton esprit et réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Vous attendez pas à ce que je vous dise un autre langage, hein, quand même. Parce que même si je suis à la retraite, je reste pas couché tous les jours. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est normal que je vous dise ça. Parce qu'un pasteur, c'est quand même un berger. Et on doit marcher ensemble. Voilà. Alors, il ne faut pas regarder derrière nous. Et il ne faut pas faire, il ne faut pas se cristalliser à comparer. Et voilà que la suite, il est dit ceci au verset 4 du chapitre 2. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez. » Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans l'œuvre de Dieu ? Des choses spirituelles, des actions, des engagements, peut-être matériels sur le plan d'accompagnement des autres, la consolation, la prière, ne serait-ce que déjà la fréquentation des réunions, c'est déjà pas mal. Travaillez, car je suis avec vous. Et Dieu ajoute, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, alors ne craignez pas, n'ayez pas peur, tout simplement. Il y a une chose dont nous avons besoin de nous imprégner, c'est de nous fortifier en Dieu et de ne pas laisser la peur et la crainte nous dominer. Parce que là, à ce moment-là, on ne se fortifie pas, on se décompose. Et ça, c'est deux choses qui sont tout à fait particulières. Et souvent, nous avons, peut-être devant les excuses ou les prétextes de ne pas aller plus loin avec Dieu, on dit, Seigneur, j'ai peur, j'ai des craintes. Seigneur nous dit, mais n'aie pas peur, je suis avec toi, tu viens de l'entendre, je viens de te le redire, je suis avec toi. Je voudrais vous dire que Dieu va pas demander la même chose à tout le monde. Hein. Mais je suis sûr que parmi nous, il y a des frères et des sœurs ou des jeunes qui ont un ministère ou un service particulier. Alors allez-y. Ça peut être dans l'expression musicale, dans le chant, ça peut être dans peut-être les travaux à faire, quand il y a des travaux à faire, peut-être des dextérités ou des compétences ou des capacités particulières. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Je regarde l'autre et je lui dis, il a tout, moi j'ai rien. C'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. Parce que vous avez tous quelque chose, frères et sœurs, pour travailler à l'œuvre de Dieu. Ah oui! Moi j'apprécie certains talents que des chrétiennes ont, en exerçant, par exemple, peut-être des talents pour décorer, pour faire ceci et cela. Eh oui, pourquoi pas? C'est une expression de l'amour et des sentiments que nous avons pour le Seigneur. Vous savez, à l'extérieur de l'Église, hein, il y a des gens qui ont des capacités formidables, et je peux vous dire qu'ils les mettent en action. Hein. Et ils le font pas pour le Seigneur, ça c'est sûr. Bon, peut-être pour des causes nobles. Mais nous, qu'est-ce que nous devrions faire? On peut pas être en dessous pour notre Dieu qui nous a sauvés. Et le Dieu qui nous accompagne en disant, mais je te bénirai. Tu vas recevoir, eh bien, une bénédiction particulière. Alors nous avons besoin de nous fortifier spirituellement. Et on vient se ressourcer devant Dieu et ne pas avoir crainte. Trois raisons d'aller de l'avant et je vais bientôt finir. Dieu dit, je suis avec vous. Écoutez, on n'a pas lu, je suis contre vous. Je suis avec vous. Et c'est un saisissement par la foi. C'est dans la mesure où nous le croyons que Dieu nous dit qu'il est avec nous, que ça va se réaliser. Il n'y a pas d'entre-deux. Tout simplement. Et vous savez, quand on sait que Dieu est avec nous, eh bien, là, nous avons un antidote au découragement et à la rechute. Parce que là, ils ont rechuté. Hein. Un mois après, ils se sont dit, on abandonne. Ouais. Parce qu'on n'est jamais seul, puisque Dieu nous dit qu'il est là. Et puis il dit, je suis fidèle, parce que Dieu, même quand tout fait défaut, nos forces physiques, nos forces morales, l'ampleur du travail à accomplir, Dieu nous dit, mais t'es pas seul, je suis avec toi. On va quand même pas reprendre les paroles d'Élie en disant, mais je suis resté moi seul. Et Dieu lui dit, mais dis donc, tu vois pas comme je vois. Essaie de comprendre et essaie de voir comme moi je vois les choses. Mais tu n'es pas seul, Élie. Il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors tu ne dis pas que tu es seul. On n'est pas seul, frères et sœurs. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, quelquefois, on a des montagnes à surmonter. On a des choses qui sont extrêmement difficiles. Et on se dit, mais comment on va y arriver? Mais il y a quand même une position, c'est de nous confier en Dieu et de lui faire confiance. Parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Alors il me dit, je suis fidèle. Et c'est là qu'après, quand les choses sont faites, on s'aperçoit qu'il est fidèle. Il est vraiment fidèle, le Seigneur, ça c'est sûr. Et puis il ajoutera, mon esprit est au milieu de vous. Sinon, moi je vous dis que vous n'avez pas de raison d'être à sec ou tari et de dire je ne peux pas, parce que ça c'est un mot qui n'existe pas. Je ne peux pas, sans Dieu, je ne peux pas, c'est vrai. Mais avec Dieu, c'est un mot qui n'existe pas. Alors à ce moment-là, faut croire que Dieu n'est pas tout puissant. Il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout, il ne peut pas tout. Mais Dieu est un Dieu tout-puissant. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Eh bien, nous arriverons jusqu'au bout. Avec Dieu, nous dit David, nous ferons des exploits. Eh oui. Et le résultat, eh bien, c'est tout simplement, Dieu le dit, mais ne craignez rien, il n'y a aucun problème. Et je termine. À travers le verset 6 à 9, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette nation. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a des ressources que nous n'avons pas. Et vous allez le voir dans l'Assemblée Générale, Dieu a des surprises à nous faire. Des choses inattendues, des choses merveilleuses, et des choses glorieuses, je me dis merci Seigneur. Frères et sœurs, je le dis entre parenthèses, vous avez des dettes? Vous avez des crédits qui vous écrasent? Ben écoutez, faites confiance au Seigneur, vous allez voir. Enfin, un crédit, c'est autre chose qu'une dette, hein, c'est pas pareil. Vous faites, comme on dit, du mouron? Vous endormez pas la nuit? Mais faites confiance au Seigneur, vous allez voir comment il va régler les problèmes. Vous allez me dire, c'est facile de dire ça. Mais écoutez, on l'a vécu. Hein. Et on l'a vécu pour l'œuvre de Dieu, on l'a vécu dans l'Église aussi. Ici, et puis ailleurs. Quand on voit que Dieu... Quand il y a un projet, quand il y a quelque chose, il est capable de nous servir les choses sur un plateau d'argent. Et dans ce plateau d'argent, il y a de l'or. Il le dit, hein. Écoutez, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous sommes petits? Seigneur, nous sommes des nains spirituellement. Aide-nous à grandir. Aide-nous à voir comme tu vois, Seigneur, à aimer comme tu aimes, à agir comme tu voudrais que nous agissions. Seigneur, aide-nous. Nous sommes malheureux dans cette situation. Je remplirai de gloire cette maison. Dieu est capable de bouleverser ce qui semble figé. L'or et l'argent sont à moi. Et les moyens, donc, appartiennent au Seigneur. Et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, eh bien, il va nous donner les moyens de réaliser son œuvre. Travaillez, et je vous donnerai ce qu'il faut. Parce que quand Dieu envoie, il pourvoit. Retenez bien cette parole. Quand il envoie, il pourvoit. Dieu ne va pas nous laisser en milieu de route en disant maintenant, ben, je te laisse tomber et puis tu te débrouilles tout seul. C'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai pour l'incrédule. Mais pour le croyant, ça ne sera jamais vrai. Une gloire plus grande. Ce qui veut dire que la gloire avait quitté le premier temple à cause du péché, à cause de tout ce qui s'était passé en Israël, mais que la vision que nous devons avoir consiste à croire que dans tous les temps, le royaume de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, ses hauts et ses bas, Dieu cependant garde en vue. Il ne perd jamais de vue la réalisation de son règne final. Et quand il y a quelque chose d'entrepris, il le mènera jusqu'au bout. Peut-être que les hommes vont se décourager, il y en a qui vont lâcher prise. Bon, ça c'est humain. Mais en tous les cas, Dieu ira et il tiendra la main de ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous connaissez, c'est Jésus qui le dit. Et nous ne devons jamais nous décourager de le servir. Jamais nous décourager de le servir. Je finis à travers cette belle parole de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, écoutez bien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. C'est pas la peine de chercher ailleurs. C'est pas la peine de regarder ailleurs. Cette grâce de cette victoire, elle nous est donnée par Jésus. Mais la suite, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est pour tous. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il ne sera pas vain. Vous le croyez? Ah oui, il faut le croire. On est en train de préparer l'avenir, les 5 ans et les 10 ans qui vont venir pour les églises de Saint-Nazaire et de Redon. Je le fais avec une conviction. Je le fais parce que je sais ce que Dieu veut faire. C'est peut-être pas moi qui vais le faire, mais on prépare pour la suite. Et je sais ce que Dieu m'a demandé. Je dis pas ça pour faire un effet de manche, hein, et puis un des effets oratoires. Mais moi, je sais. Mais faut pas rater la porte. Faut pas rater la porte, parce qu'il y a un plan bien précis. À quoi servirait-il de prier et de demander « Seigneur, envoie des âmes ». Mais le Seigneur est en train de préparer les conditions pour envoyer les âmes. Et un temps nouveau. Moi, je vais passer le relais bientôt. Mais je veux que le relais soit passé. Celui qui viendra. Mais je veux que vous le preniez, le relais. Oui. Vous allez l'avoir entre les mains. Moi, après, je me retire. Hein. C'est normal. Mais on ne parle pas comme ça pour rien. Le Seigneur est en train d'encourager son Église. Il est en train de préparer l'avenir. Et vous allez vous réjouir, mes frères et sœurs. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Et il fait des grandes choses dans nos vies personnelles. Servez, servez le Seigneur et il vous bénira. Servez-moi, dit Dieu, et je vous bénirai. Alors, on va y aller, on va prier. Simplement, on se courbe quelques instants et on va remercier le Seigneur parce que lui, il a des projets solides. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Oui, Seigneur, nous croyons que toi, tu es la visibilité, Seigneur, des choses que nous ne pouvons pas comprendre ou entrevoir aujourd'hui. Mais néanmoins, Seigneur, nous croyons que déjà dans notre cœur, tu mets des indications par le Saint-Esprit. Et puis, ce que tu veux, c'est que ce ne soit pas nous qui fassions les choses, mais tu veux que nous soyons fidèles dans les choses que tu vois, veux réaliser à travers nous, à travers ton Église. Bénis ton peuple, arme nos cœurs et nos bras, et permet que toute décision que nous prenions, toute mobilisation que nous prenons, eh bien, ne sois pas, Seigneur, finalement, eh bien, quelque chose d'éphémère, de passager, de fugace, mais que ce soit pas une émotion, en effet, eh bien, fugitive, mais que ce soit quelque chose qui dure. Et Seigneur, tu comptes sur ton peuple pour que nous allions jusqu'au bout, et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.